Bonjour, avec des températures frôlant ou parfois dépassant ou pouvant dépasser les 40 degrés sur une partie du territoire français, on peut dire que nous enregistrons cette émission aujourd'hui 13 juillet au cœur de ce qu'on appelle maintenant un événement climatique extrême, un de ces événements de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents qui caractérise le dérèglement climatique. Alors comment les climatologues peuvent-ils s'appuyer sur ces événements pour sensibiliser, tenter de le faire, la population et les différents pouvoirs à l'urgence climatique? C'est la question que je poserai à notre invité d'aujourd'hui, au cœur de la fournaise, Valérie Masson-Delmotte. On peut dire que nous avons chaud tous les deux, donc que nous sommes vraiment au cœur de l'événement. Vous êtes évidemment paléoclimatologue et vice-présidente du GIEC. Dans la fournaise également, notre invité en visio, William Autant. William Autant, vous étiez un des 150 citoyens qui ont réfléchi pendant plusieurs mois, il y a maintenant 2 ans, à la crise climatique et à ses solutions, la fameuse convention citoyenne pour le climat. Vous êtes en visio, je le disais, depuis les Pays de Loire avec nous. On s'interrogera donc, parce que c'est une des questions aussi qui se posent en cette fin de saison, sur un petit bilan de cette convention citoyenne et des suites qui lui ont été données. Alors, une des premières choses que peuvent faire les climatologues plongés au cœur d'un événement extrême, c'est d'essayer en direct, pendant que l'événement se produit, d'expliquer au public et peut-être aussi d'expliquer au pouvoir d'ailleurs ce qui se produit exactement, pour donner les éléments aux gens pour comprendre comment tout à coup ces 40 degrés nous tombent sur la figure. Alors il y a des instruments pour ça, on peut venir sur un plateau comme on le fait là, et on peut aussi se servir des réseaux sociaux et notamment de Twitter. C'est ce qu'a fait votre collègue Christophe Cassou il y a quelques jours sur Twitter, dans ce qu'on appelle un thread, un fil. Je l'ai lu avec attention, je l'ai relu, je l'ai re-relu, je n'ai pas tout compris et je me suis dit, ça tombe bien, j'ai une climatologue sur le plateau, une collègue, elle va peut-être arriver à m'expliquer. Alors, c'était donc un fil il y a quelques jours, donc Cassou nous dit mi-juillet sera caniculaire, la porte de l'inédit est ouverte, sera-t-elle franchie? Un fil pour décrire une dynamique multi-acteur et multifacteur complexe qui pourrait faire de cette canicule un épisode historique ou pas. Donc, et ça commence. Alors, il nous explique que ça commencera dès ce week-end, c'était le week-end dernier, avec la destruction progressive d'un environnement de très grande échelle, déferlement d'une onde dite planétaire de la Scandinavie à la Méditerranée, favorable aux conditions chaudes, donc c'est la tache rouge qu'on voit sur sa carte, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Donc, il y a une situation météorologique qui fait qu'on va avoir à la fois un anticyclone un peu bloqué et puis une arrivée de circulation d'ouest qui va descendre en arrivant vers la France et l'air en descendant se compresse. Et c'est une des caractéristiques qui peuvent contribuer à des conditions plus chaudes.
Donc, ça vient de l'Atlantique, hein.
Alors, la direction actuellement vient de l'Atlantique, mais ça s'ajoute aussi, ça va s'ajouter dans les jours qui viennent, à un flux d'air en provenance du sud, masse d'air tropicale, et donc on a deux phénomènes qui vont se superposer, une espèce de chaleur pulsée qui vient du sud, ouais, et puis cette arrivée d'air atlantique qui, en descendant, apporte une forme de dôme de chaleur, comme ça a été le cas pour plusieurs canicules récentes.
D'accord, donc convergence de voilà. Puis alors, dans un deuxième, parce que ça, ce serait trop simple. Il y a autre chose. Dans un deuxième temps, arrive la dynamique de gouttes froides favorisant la plume de chaleur. Alors, qu'est-ce que ça?
Tout à fait. Donc là, en fait, c'est une configuration atmosphérique qui va favoriser ce que j'appelle la chaleur pulsée. Donc, en fait, de l'arrivée d'air chaud depuis l'Afrique du Nord, qui arrive par l'Espagne. On a en ce moment des températures caniculaires particulièrement intenses du côté de la péninsule ibérique. Et puis, cette chaleur pulsée arrive en fait dans le sud de la France et s'ajoute à l'autre phénomène, c'est ce que je décrivais tout à l'heure.
C'est ce qu'on appelle, alors chaleur pulsée, c'est ce que lui il appelle la plume de chaleur, c'est ça.
En fait, en anglais, le terme plume, ça veut dire aussi panache. C'est d'accord. L'image d'une plume, la forme d'une plume. D'accord. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est une arrivée constante de chaleur. Donc, moi je dis chaleur pulsée, ça peut parler aussi aux gens d'une manière empirique.
D'accord. Et alors, ce qu'on appelle la goutte froide maintenant,
Donc ça, c'est un processus météorologique de blocage d'une petite masse d'air et dont la position va plus ou moins défléchir ou favoriser cette arrivée d'air chaud. En fait, c'est ça qui va contrôler l'arrivée de cette chaleur pulsée du sud.
C'est un gouvernail ?
Moi, je dirais un obstacle.
C'est un obstacle. C'est-à-dire que l'air chaud va devoir contourner par la droite, par la gauche.
Ça peut le bloquer ou ça peut au contraire favoriser son arrivée depuis les régions tropicales.
On était il y a une semaine, là, 7 jours d'échéance, dit votre collègue Cassou. Il n'est pas sérieux de se prononcer de manière déterministe, car l'incertitude est toujours grande par rapport à la position de la goutte froide. C'est-à-dire que cette goutte froide, on ne sait pas où elle va se mettre. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à 7 jours à être très précis.
C'est ça. Donc là, on touche en fait à la limite de la prévision météorologique, où en fonction de l'évolution de l'état de l'atmosphère, quand les jours passent, les prévisions s'affinent.
D'accord. On continue avec votre collègue. Faut donc considérer l'ensemble des possibles qui va de l'inédit. Alors, l'inédit, ça veut dire plus fort que la canicule de 2003, hein, parce que référence, c'est la canicule de 2003.
En fait, on compare entre elles les canicules par rapport à deux caractéristiques, l'intensité de la chaleur et puis la durée de la période chaude. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que, d'abord, le côté très aigu, le niveau de chaleur peut provoquer, dépasser des seuils de tolérance pour les organismes fragiles. Et puis, la durée, c'est également important. La durée étant importante parce que, quand on a des nuits de plus en plus chaudes dans les villes, on a bien vu ce matin à Paris, c'est pas descendu en dessous de 26 degrés, je pense, quelque chose comme ça, avec les effets d'îlots de chaleur, on se repose moins bien la nuit. Et c'est ça qui peut aussi conduire à des risques sanitaires majeurs, la durée de ces périodes chaude.
Alors là, on reste chez Cassou, on est encore le 10 juillet, il nous explique que le 10 juillet, il a du mal encore à être très précis, qu'il a attendu pour écrire son fil sur Twitter, mais qu'il n'y est pas encore.
On va vers un événement qui pourrait être le deuxième plus chaud juste après 2003, aujourd'hui, d'après les toutes dernières prévisions.
Voilà, là aujourd'hui, 13 juillet, c'est ce qu'on peut dire.
Donc ce que Christophe, je ne sais pas s'il avait mis dans son fil, mais on a donc plusieurs facteurs qui vont jouer sur les canicules. On a le facteur dynamique, la configuration météorologique. On a aussi le fait que quand on a des sols qui sont secs, ces sols en fait ne peuvent pas évaporer ou les plantes ne peuvent pas transpirer. Et ça va entraîner un réchauffement supplémentaire en surface. Donc on sait que c'est un facteur aggravant du risque de conditions très chaudes. Et puis bien sûr, le dernier facteur, au-delà du contexte purement météorologique, la situation actuelle, c'est que à mesure qu'on augmente la température moyenne planétaire, qu'on accumule de la chaleur dans le climat du fait de nos rejets de gaz à effet de serre, on augmente la fréquence, la probabilité d'occurrence, mais aussi l'intensité de ces événements partout dans toutes les régions du monde et en mer, parce qu'on a aussi en fait une vague de chaleur marine en Méditerranée également.
Et voilà pourquoi vous avez chaud. Alors, on poursuit toujours le fil de Christophe Cassou, qui a décidé de prendre un exemple en se plaçant dans le sud-ouest de la France vers Agen. Et alors là, il nous montre une image, alors que moi, j'ai pas compris, je vous le dis franchement. Voilà les températures... Attendez, on peut revenir au texte juste une seconde. Voilà les températures prévues avec leur probabilité matérialisée par les boîtes à moustaches. C'est la première fois
que
j'entendais parler des boîtes à moustaches.
Donc les boîtes à moustaches, c'est ce schéma, donc si on peut le mettre en gros. Vous avez un rectangle qui représente la plage, on va dire, la plus probable. Et puis on a des barres.
Alors attendez, vous pouvez le montrer juste derrière
voilà,
vous.
Voilà, donc comme... là, c'est la boîte.
Ça, c'est la boîte à moustache.
Là, c'est la valeur médiane, donc la plus probable. Là, c'est en gros, généralement, 50%. Ben non, en fait, là, c'est encore plus que ça. C'est 80% de confiance. Et puis, c'est la possibilité qu'on ne peut pas exclure, mais qui est plus faible, d'être dans les limites représentées par les barres noires qu'on appelle les moustaches.
Bon, j'ai toujours pas compris. Ce qui veut dire que, moi, je vais appeler ça un petit lampion, on dirait que c'est des petits lampions. Alors, si le petit lampion sort de la bande rose, là, on voit que le petit lampion, le 9 juillet, il est toujours dans la bande rose foncée. Et s'il sort de la bande rose, ça veut dire quoi ?
Donc, en fait, là, je pense que c'était les records chauds observés à ce jour.
En rose foncé.
Donc là, c'est l'historique, en fait. Hein,
d'accord.
Et là, en fait, ce sont les prévisions. Donc, quand les prévisions sortent de la plage rouge, on se dirige vers des situations rares ou records. Et par ailleurs, vous voyez que les moustaches poussent au fur et à mesure du futur. Les prévisions météorologiques sont plus fines à court terme et plus incertaines au-delà de plusieurs jours. Et donc, quand on fait des prévisions le 9 juillet, on ne peut pas exclure d'avoir des situations qui peuvent être encore plus marquées ou au contraire... selon l'évolution, qui reviennent dans la plage déjà connue.
D'accord. Vous savez, ce qui est bien avec Internet, c'est que nos abonnés, s'ils n'ont pas compris à la première fois, ils vont pouvoir se mettre revenir en arrière de 2 minutes et vous réécouter. Et je pense qu'à la deuxième ou la troisième fois, ils auront compris. Ça marche, ce que fait Cassou, ce que nous faisons là, c'est-à-dire de donner des explications quand même relativement pointues à un très grand public. Vous pensez que c'est efficace, qu'il faut le faire de toute façon?
Il y a beaucoup de gens qui sont curieux, passionnés de météorologie. Il y a tout un réseau, en fait, de personnes qui, soit pour des raisons professionnelles, je pense en particulier aux agriculteurs, ou pour des raisons personnelles, ont une grande curiosité pour arriver à comprendre comment on arrive à une situation de ce type. Mais le travail des climatologues, c'est aussi de sortir de cette situation particulière et de l'analyser. Donc ce type d'événement, statistiquement, est de plus en plus fréquent, de plus en plus intense. On a déjà dépassé 42 degrés près de Paris, 45 degrés dans le sud de la France. Ensuite, on peut également simuler l'occurrence de ce type d'événement, donc 3 jours très chauds, analyser la probabilité que ce type d'événement se produise dans un climat pré-industriel il y a 50 ans, aujourd'hui, tenant compte du réchauffement dû à l'influence humaine sur le climat. Et ça permet aussi, en fait, de situer cet événement dans son contexte. Donc, parfois, on a des événements rares, qui sont juste le hasard, on va dire, météorologique. Mais quand on a des événements qui s'intensifient, qui deviennent plus fréquents, on peut également tirer les leçons de cet événement-là. Est-ce que cet événement-là est amené à se reproduire plus fréquemment, de manière plus intense? Et c'est d'autant plus important que ce type d'événement conduit à des impacts. Donc les impacts d'une vague de chaleur, on les connaît. Il y a la santé, la capacité de travail en extérieur, mais il y a également les effets dévastateurs, en fait, du stress, chaleur et sécheresse pour les plantes, pour les cultures. Et donc, tirer les leçons de ce type d'événement situé dans son contexte, à l'échelle du changement climatique, c'est aussi important pour se préparer et pour construire des stratégies d'adaptation.
Je comprends bien pourquoi il faut le faire et pourquoi vous le faites. Ma question, c'était, est-ce que les médias sont adaptés? Est-ce que, par exemple, un réseau social comme Twitter s'est adapté? Est-ce que les grands médias généralistes sont adaptés à faire ça? Vous disiez les agriculteurs, est-ce qu'ils ne voudraient pas mieux s'adresser à des médias ciblant les agriculteurs ou ciblant telle ou telle population particulière qui peut avoir un usage particulier de cette information?
Alors, les grands médias donnent peu de place aux détails techniques. Par ailleurs, la question qui se pose, c'est comment des scientifiques peuvent quasiment en temps réel fournir des faits traçables, y compris l'incertitude qui est associée.
Et on voit qu'ils jouent sur l'incertitude, puisqu'ils nous disent bien, on n'est pas sûr, j'ai attendu parce que je n'étais pas sûr. Enfin, voilà.
Mais même quasiment en temps réel maintenant, on est capable, avant même que l'événement se soit produit, d'utiliser des méthodes qui ont déjà été utilisées précédemment pour analyser le degré à quel point cet événement a des caractéristiques remarquables, comme je décrivais tout à l'heure.
Le degré d'inédit, comme dit
c'est
Cassou.
C'est ça, exactement. En quoi il a été rendu plus probable ou plus intense du fait de l'influence humaine sur le climat. Et ça, c'est tout un domaine de recherche qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire quand un événement se produit. Au départ, ça prenait parfois des mois pour l'analyser. Maintenant, on peut quasiment le faire en temps réel, avant même qu'il se soit produit à partir des prévisions, pour permettre de le situer dans son contexte. Alors, c'est important pour plusieurs choses. C'est important pour le type d'alerte qui est donné, bien sûr, la qualité de la prévision. La possibilité d'avoir un événement très sévère, c'est important pour lancer les alertes, protéger les personnes vulnérables.
Et là, on parle des institutions, du gouvernement.
C'est ça, les systèmes de santé. Les entreprises qui ont le devoir de protéger les travailleurs en conditions chaudes, dehors ou dedans. Donc, c'est important d'avoir ces systèmes d'alerte. C'est aussi important très vite pour ce qu'on appelle la mutualisation de risques. Donc, si en fait, il y a des dommages importants sur, par exemple, les cultures, comment réagir rapidement pour tenir compte de ces effets, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour l'approvisionnement alimentaire.
William Aucan, j'imagine que vous avez suivi tout ça de près, tous ces derniers jours, le fil de Christophe Cassou, là vous venez d'écouter Valérie Masson-Delmotte, vous estimez correctement informé des raisons pour lesquelles nous sommes actuellement dans cette plume de chaleur, dans cette vague de chaleur, vous avez tout compris. Alors, c'est vrai que vous avez eu quand même une formation particulière, puisque je le disais, vous avez été membre de cette Convention citoyenne pour le climat.
Oui, après, ça ne me rend pas plus expert qu'un expert. Ça reste quand même. Enfin, bon, j'ai 5 ans d'études, j'ai une formation d'architecte urbaniste. Mais néanmoins, avant de faire la Convention citoyenne, je n'avais pas conscience de cette entité, le carbone, qui est en fait. complètement invisible et pourtant qui a des effets réels. Et le fait d'avoir eu, on va dire, le premier week-end de formation où j'ai d'ailleurs rencontré Valérie Masson-Delmotte, qui nous a transmis un peu l'état des connaissances sur le climat, nous a fait un véritable choc. Et en fait, la transmission qui s'est passée ce jour-là, je me souviens avoir pas passé une bonne semaine après avoir compris où est-ce qu'on allait, mais je n'avais pas baissé les bras pour autant, puisque la Convention citoyenne nous a donné une mission. C'était celle de trouver des mesures pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre tout en respectant la justice sociale. Mais néanmoins, depuis ce jour-là, depuis qu'on est venu me chercher, qu'on est venu chercher 149 autres citoyens très complémentaires en termes de profil, hein, c'était une France en miniature, vous aviez toutes les professions, vous aviez tous les âges, toutes les régions, etc. Et en fait, on était égaux face à cette information. Et le problème maintenant, je trouve, ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on se demandait, mais les 67 autres millions de Français, est-ce qu'ils vont comprendre tout ça?
Mais c'est tout le problème. Alors, on va revenir sur la Convention citoyenne. Je voudrais qu'on reste une seconde au cœur de la canicule là et des modes d'intervention possibles pour sensibiliser les gens et les informer de la manière la plus précise possible. Alors, il y a ce que vous pouvez faire, vous, les scientifiques. Il y a des initiatives aussi des politiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je voudrais vous soumettre l'initiative d'une députée EELV, Julie Lernoës. C'est une députée de Loire-Atlantique, je crois, donc elle est de chez vous, William Aucamp. Et voilà ce qu'elle a proposé cette semaine à l'Assemblée nationale.
C'est aujourd'hui la proposition de nombreux scientifiques et experts du climat qui proposent, comme pour les ouragans, de renommer les canicules par les noms de ces gros pollueurs. Alors, Madame la Première ministre, ma question est simple. Acceptez-vous la proposition des scientifiques? Appellerez-vous la prochaine canicule Total Énergie 2?
Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je suis frappée que le fait de nommer les événements les ancre dans une histoire partagée en laisse une trace. Il y a une longue tradition orale dans de très nombreux pays, d'une mémoire des événements extrêmes, qui a d'ailleurs été importante pour construire collectivement une résilience dans le cadre de la variabilité naturelle du climat.
Vous entendez bien que là, on parle d'autre chose. Il ne s'agit pas de donner des noms comme au cyclone.
J'ai bien compris, mais la canicule, il y a quelques années particulièrement intense, avec des dommages importants en Italie, avait été nommée.
Comment ?
Un nom en lien avec l'enfer, alors je ne me souviens plus le terme exact.
Là, c'est autre chose. Il s'agit de désigner des responsables.
Là, l'idée, c'est d'arriver à permettre de connecter plus directement ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, donc qui conduit à accumuler de la chaleur dans le climat, avec une des manifestations directes de ce réchauffement climatique, qui sont des canicules plus intenses et plus fréquentes.
Des responsables, c'est ce qu'elle veut dire. On l'appelle la canicule totale. Bonne idée, mauvaise idée ?
À discuter dans la vie démocratique.
Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que c'est intéressant de nommer les choses et de permettre à chacun de comprendre la relation cause et conséquence. Donc, dans le rapport du GIEC que j'ai co-supervisé, nous, on montre très clairement chaque tonne de CO2 qu'on émet, chaque Français, sur sa vie, en émet une dizaine de tonnes en CO2 équivalent chaque année, contribue au réchauffement climatique et chaque incrément de réchauffement climatique... Chaque tonne de CO2 contribue au réchauffement et chaque incrément de réchauffement planétaire,
c'est un
dixième de degré, en fait, va rendre plus fréquent et plus sévère les canicules, mais aussi les pluies intenses ou, dans certaines régions comme ici, les sécheresses. Ça va aussi ancrer davantage de recul des glaciers, ça va aussi ancrer davantage de montée du niveau de la mer. Donc comment relier, que chacun comprenne cette relation de cause à conséquence?
Et alors justement, pour la comprendre, est-ce qu'il est bon de nommer les entreprises, les multinationales, qui en sont de fait responsables?
Pourquoi pas, en même temps, pointer du doigt, c'est toujours quelque chose d'un peu arbitraire. Et puis ça peut aussi conduire à des contre-réactions qui ne sont pas nécessairement constructives.
Du genre,
essayer toujours d'aller trouver quelqu'un de plus responsable que soi, ici ou ailleurs, plutôt que regarder lucidement nos propres responsabilités, les prendre à bras-le-corps, et puis conduire à mettre en œuvre des transformations qui nous permettent de vivre bien, tout en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre, parce qu'on voit bien qu'on touche à des limites sur les conditions de vie.
Oui, mais alors ça, vous savez, c'est un débat permanent, je veux dire, dans les médias, dans l'espace public et au sein des familles aussi, enfin, je veux dire, dans la conversation sur l'urgence climatique, c'est un débat permanent qui est de se demander, bon, ben, qui est responsable ? Est-ce que c'est eux, là-haut, le système, la mondialisation, les pétroliers, le système économique, ou est-ce que c'est nous qui sommes tout de même, en dernier sort, les consommateurs des produits mondialisés, donc qui faisons venir de très loin des super containers. Voilà.
Donc vous voyez bien, on est en train d'essayer de chercher quelque part à identifier les, entre guillemets, responsables ou coupables. Oui. Mais la question que moi je préfère prendre à bras le corps, et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup des citoyens impliqués dans la Convention, c'est au-delà de ça qui va chercher aussi parfois à stigmatiser les uns ou les autres. Comment on se met dans une dynamique de transformation. Et en fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est que les travaux des sciences sociales montrent que l'information scientifique ne conduit pas nécessairement à l'action. L'expérience d'un événement extrême ou plusieurs événements de plus en plus extrêmes non plus, étonnamment.
Qu'est-ce qui manque ?
Ce qui en fait conduit à l'action, c'est une dynamique collective portée par de nombreux acteurs dans la société et qui nous met dans une dynamique de nous voir comme agents de transformation et pas cherchant à pointer du doigt les uns ou les autres.
Alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être cette... J'essaye de me figurer ce que peut être cette dynamique collective portée par plusieurs acteurs dans la société. Ça peut être quoi ?
Mais ça peut être un cadre réglementaire plus clair. Ça peut être une évolution de la fiscalité. Donc ça, c'est de la gouvernance.
Voilà. Ah oui, voilà. Dans le gouvernement.
Voilà, ça peut être davantage d'informations à tous les consommateurs sur les produits pour qu'on puisse choisir en connaissance de cause par rapport aux implications sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être aussi l'information que chacun choisit d'acquérir pour faire son propre bilan carbone, je ne sais pas si vous en avez fait un, c'est toujours instructif, hein, voilà.
Non.
Ou dans un cadre professionnel, parce que c'est souvent aussi un point de départ pour voir en fait finalement là où on pèse le plus, les choses qui relèvent de nos choix, puis les choses qui relèvent d'organisations plus larges, qui ont besoin aussi d'être transformées.
Vous avez fait le vôtre ?
Oh, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans.
Comment on fait pour faire son bilan carbone ?
On va sur le site de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat. Alors souvent pour les Français, les premiers postes, en fait c'est tout simple, hein, c'est ce qui émet le plus, ce qui consomme le plus d'énergie fossile. Donc quand on met de l'essence ou du diesel dans un véhicule, souvent le premier poste ça va être les transports. Quand on a un logement qui est chauffé au fioul ou au gaz, hein, c'est souvent le deuxième poste. Et c'est des dépenses parfois contraintes qui montent. Donc on voit bien qu'il y a un double enjeu, qu'il y a un enjeu en fait de sécurité énergétique. Il y a un enjeu de maîtrise de dépenses qui va avec l'enjeu climat actuellement.
On voit la page dont vous parlez. Là.
Et puis le deuxième levier d'action, souvent, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, en fonction du type d'alimentation que l'on a, la part, par exemple, de l'élevage, la part de l'alimentation végétale, ça va aussi contribuer plus ou moins.
Vous savez quoi, je vous promets, je vais faire mon bilan carbone. Je vais profiter des vacances pour faire mon bilan carbone. William Ocan.
Oui, c'est extrêmement important cette histoire de bilan carbone. C'est pratiquement ce que nous tous, on a fait à la Convention citoyenne en rentrant. Le prix d'un vertige, en fait, où on nous dit notre empreinte actuelle, elle est de 11 tonnes. Et dans 30 ans, on doit passer à 2 tonnes. Et là, vous vous dites, en fait, tout doit changer. Parce qu'en fait, quand on calcule son bilan carbone, le mien était de 8 en rentrant à la Convention citoyenne. Et bien sûr, j'ai agi dessus, puisqu'on a aussi ce pouvoir de contrôler sa propre vie. 3 tonnes sur ces 8 tonnes, c'était 2 allers-retours en avion. Un modèle qui nous est vendu, en fait, le fait de pouvoir partir en avion assez rapidement pour pas cher. Et en fait, je suis retombé donc à 5 tonnes. Je peux encore gratter sur l'alimentation, mais disons qu'il y a ces choix-là. Et en fait, le modèle de société qu'on nous propose ne convient plus. C'est-à-dire qu'on sent qu'on va droit dans le mur. Les membres de la Convention citoyenne en ont bien eu conscience. C'est tout à l'heure, quand on parlait de nommer les catastrophes,
les phénomènes climatiques,
les phénomènes climatiques en fonction de ce qu'on a appris, des rapports du GIEC, parce que du fait de la Convention, après, on rentre dans la volonté de connaissance et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour aider.
Vous en pensez quoi de la suggestion qui était faite par la députée qu'on a entendue?
Elle est extrêmement intéressante. 99,9% avec cette certitude-là est lié que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine. Et donc, il y a des activités qui sont extrêmement polluantes. Et on ne va pas nommer ça sur des citoyens. Les citoyens font leur vie qu'on leur a proposée. C'est-à-dire qu'on a grandi dans une société au fait qu'on vous promet une voiture, on vous promet une maison, on vous promet, etc., etc. En fait, dans un monde où les personnes qui ont conscience de ce réchauffement climatique savent qu'il y a des limites, c'est-à-dire que en fait, notre planète ne pourra pas aller plus, on ne pourra pas aller sur ce système-là, ce n'est pas possible. Et donc c'est ce choc qu'on a pris en calculant par exemple notre empreinte carbone personnelle. Mais on sait aussi que tout ne doit pas reposer sur les citoyens. Les citoyens ont le moyen de dire on arrête de manger trop de viande, on arrête de prendre l'avion, etc. Et donc après, le marché s'adapte à ça. Mais autrement, ce qui nous est proposé, comment faire autrement? Il y a une chose qui est extrêmement impactante, enfin, c'est une des mesures auxquelles je crois plus, c'est la régulation de la publicité, en fait, où il y a une espèce de dissonance cognitive, où on vous dit vous pouvez partir à pas cher, et en même temps, en fait, les forêts brûlent, les glaciers fondent. Et en fait, on est baigné dans ça. Et il y a une difficulté.
Récemment, il y a quelques jours, là, sur Twitter, alors, vous avez dénoncé mais, alors, une forme particulièrement nouvelle, je dois dire, et que je ne connaissais pas de publicité. Alors, c'est des camions qui parcourent les rues avec des publicités en vidéo sur chacune des faces du camion, de la camionnette. C'est bien ça?
C'est-à-dire qu'on ne peut plus y échapper, quoi. Ouais. C'est affolant. On avait à la Convention citoyenne des mesures pour arrêter les petits avions que vous voyez sur la plage avec des banderoles publicitaires à l'arrière. En fait, on a réussi à acter ça dans la loi. En fait, on arrive à revoir la pub arriver à d'autres endroits, c'est-à-dire sur les routes, dans les panneaux lumineux. Quand vous traversez la ville, enfin, moi, je suis vraiment attentif à ça en tant que professionnel sur l'urbanisme, le fait de traverser la ville, d'être confronté à ces panneaux lumineux, à ces pubs, etc. On a une fatigue complète, une intrusion complète, et en fait, on pense même plus par nous-mêmes. C'est assez terrible. Et de voir ça sur les routes, consommant de l'énergie, proposant des modèles qui sont à l'encontre même de l'action climatique.
Enfin, la pub en général, voilà, ça c'est une forme de pub particulièrement intrusive, on va dire, mais la réflexion peut s'étendre à la pub en général. Qu'est-ce que la Convention citoyenne avait recommandé sur la pub? Vous vous en souvenez?
Ben, la régulation de la pub pour tous les produits les plus émetteurs. C'est-à-dire qu'en gros, on arrête de faire de la publicité pour les véhicules lourds, on arrête de faire de la publicité pour les vols low cost, on arrête de faire de la publicité pour, tout à l'heure Valérie Masson-Delmotte en a très bien parlé, l'alimentation aussi, c'est un gros enjeu. Et puis on favorise ce qui permet de réduire au maximum sa consommation et ses émissions de CO2. On fait de la pub pour la rénovation thermique des logements, on fait de la pub pour le GIEC, par exemple. Il y a un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique qui diffuse à la place de là où on a des pubs pour aller voir le dernier spectacle de je ne sais pas qui ou film. On a une synthèse du rapport du GIEC.
Voilà, ça a été affiché dans le métro. Hein. On a vu ça, ça a été affiché dans le métro.
Si je peux me permettre, je l'ai vu dans le métro, mais à côté, il y avait une pub pour un voyage à l'autre bout de l'Europe pour 30 euros en avion pour un week-end.
Ah, vous auriez dû faire la photo. Vous auriez dû faire
Je l'avais faite.
Et la mettre sur Twitter. Vous l'avez mis sur Twitter?
Non.
Faut la mettre sur Twitter. Vos recommandations sur la pub, elles ont été retenues? Elles ont été suivies des faits?
Non. En fait, le problème est que le gouvernement peut se targuer d'avoir fait des mesures de la Convention citoyenne, mais quasiment toutes ont été, rabaissées, affaiblies. Voilà. Sur la publicité,
je voudrais qu'on y vienne un peu dans le détail, parce que ça, il est un peu difficile de savoir. Alors, on se souvient de l'historique, hein, quand Macron lance la Convention citoyenne, il dit « tout sera repris sans filtre ». Pour être soumis au Parlement ou à référendum. Quand la Convention citoyenne rend son travail, tout d'un coup, le sans-filtre devient « Ah non, j'ai trois jokers ». Donc il a trois jokers, il y a trois mesures qu'il n'appliquera pas. Et alors, finalement, aujourd'hui, on en est où? Alors, il y a deux médias qui sont vraiment penchés sur la question, mesure par mesure, hein, parce qu'il y a 149 mesures qui ont été préconisées. Alors, Le Monde, d'abord, s'est demandé ce que sont devenues les propositions qu'Emmanuel Macron s'était engagé à reprendre sans filtre, avec une version plutôt optimiste, nous disant une majorité des 146 mesures ont été reprises partiellement et 28 ont été écartées, d'accord. Là-dessus, il y a un autre média, le site indépendant Reporter, qui a fait le même travail et qui, lui, nous dit « Ah non, seuls 10% des propositions ont été reprises par le gouvernement, avec un visuel de reporter qui nous montre là. Alors donc les cinq colonnes, c'est les cinq grandes têtes de chapitre des propositions de la Convention, se déplacer, consommer, se loger, travailler, se nourrir et la Constitution. Alors en rouge, vous avez les propositions qui sont rejetées ou non appliquées, en jaune, celles qui sont modifiées ou édulcorées, et en vert, les 10% malheureuses propositions qui ont été reprises. Alors sauf que ce n'est pas du tout le même schéma que le schéma du Monde, puisque le Monde aussi, lui, a publié un schéma. Et on voit que le gratte-ciel, hein, c'est-à-dire la deuxième colonne en partant de la gauche, ce sont les propositions partiellement reprises. Donc, en gros, Le Monde nous a vendu le verre à moitié plein, Reporter nous a vendu le verre à moitié vide. Quelle est votre analyse aujourd'hui ? Vous êtes plutôt, Valérie Masson-Delmotte, vous êtes plutôt verre à moitié plein ou verre à moitié vide ?
Mais en fait, ces propositions, elles ont été intégrées dans la loi Climat et Résilience, dont d'ailleurs tous les décrets n'ont pas été communiqués. Donc il est difficile de se prononcer par rapport à ce qui est concrètement rentré dans l'action.
On va dire au jour d'aujourd'hui.
Ouais. Moi, ce que je veux souligner, c'est que les retours que j'en ai, en particulier d'élus, c'est qu'il y a eu une impulsion, en particulier, par exemple, pour aller vers zéro artificialisation nette, qui a démarré et qui commence à porter certains effets, même si c'est insuffisant, comme le souligne le Haut Conseil pour le Climat. Donc il y a eu certaines mesures qui ont été partiellement prises et qui sont importantes. De la même manière, il y a certaines mesures qui portent sur l'érosion du littoral, mais qui ne prennent que partiellement en compte, en réalité, toutes les conséquences de la montée du niveau de la mer. Ce n'est pas seulement de l'érosion, c'est l'augmentation des inondations chroniques à marée haute, c'est l'augmentation des submersions, l'érosion. Et donc, on voit que ça avance un peu sur la base des propositions de la Convention, mais ce n'est pas suffisant pour permettre vraiment de se préparer et limiter la casse à venir. Et dernière chose, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les propositions qui ont été écartées, on va dire, de la Convention, c'est finalement celles qui mettaient le curseur sur la sobriété. Parce que parmi les délibérations des citoyens, plein de bon sens, je pense, il y avait pas mal de recommandations dans cette direction-là. Réduire un peu la vitesse sur les autoroutes, augmenter la fiscalité sur les véhicules à partir d'un seuil de poids pour éviter d'avoir des tanks dans nos villes, enfin, par exemple.
Hein. Là, on était dans la, la première tête de chapitre, se déplacer.
Exactement.
Et c'est là qu'il y a le plus de rouge. C'est là qu'il y a le plus de rouge.
Ouais. J'insiste parce que se déplacer, les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, c'est un des secteurs où il est important d'agir et où ce n'est pas simplement remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques qui résoudra l'ensemble des enjeux de ce secteur et de mobilité. Et ça demande de l'aborder autrement. Et quand on a remis le rapport du Haut Conseil Climat cette année, qui passe en revue aussi la loi Climat Résilience et son application, à la Première ministre et à plusieurs ministres et responsables de cabinets ministériels, on a parlé sobriété. Ce matin, quand on l'a rendu, quand on l'a présenté à la Commission Développement Durable du Parlement, il y a eu effectivement, ce matin, il y a eu effectivement plusieurs points de discussion, dont la question de comment finalement on peut mettre en œuvre ces enjeux de sobriété. Je veux revenir là-dessus parce que c'est important. Vous parliez de responsables. Donc il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux de transition énergétique, ce n'est pas l'individu qui le mène. Hein. Il y a des enjeux de cadre réglementaire pour le bâtiment, ce n'est pas l'individu. Mais pour accompagner le fait que chacun puisse avoir un style de vie sobre en carbone, ça demande des actions structurantes. Et ces propositions, à l'angle d'une baisse de la demande en énergie, en matériaux, mais aussi en sol, en eau, sur tous les aspects qui sont mentionnés là, pour permettre à chacun de vivre correctement, dans le cadre de limites planétaires, c'est la chose en fait qui est devant nous. C'est la chose qui est importante à intégrer dans une vision de mode de consommation, de mode de production, pas seulement soutenable, hein, mais qui réduise la demande. Et c'est vraiment un enjeu clé. Et la question des députés était, comment est-ce qu'on le rend désirable? Et donc, je pense que c'est une question pour les citoyens de la Convention qui en ont fait certaines de leurs recommandations clés.
Vous dites qu'ils réduisent la demande.
Oui.
C'est une manière de parler de décroissance sans dire le mot ?
En fait, moi, j'aime pas le terme décroissance ou croissance parce que c'est réduire l'activité, la vie d'un pays à un seul chiffre qui est le PIB. Donc, c'est construire une autre forme de développement, on va dire, où on met le curseur fort sur des questions de bien-être humain et on le met moins fort sur purement chercher la hausse du PIB.
William Ockham, aujourd'hui, 13 juillet 2022, votre bilan des résultats de la Convention citoyenne pour le climat. Alors j'ai bien entendu que vous, les 150, vous avez vécu une expérience formidable, vous êtes beaucoup plus informé, plus intelligent aujourd'hui qu'il y a 3 ans, ok, mais concrètement, verre à moitié plein, verre à moitié vide?
Ben, une grande déception, en fait. Le fait, déjà, d'une, d'avoir été chercher, on n'avait rien demandé. On est venu m'appeler un milieu d'août pour me dire « Vous voulez participer à la Convention citoyenne ?» Moi, je voyais la première fois où on allait chercher le citoyen et qu'il y avait un raccourci entre membres du gouvernement et citoyen. Je crois que c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Et l'objet en lui-même, le fait d'avoir fait ces recommandations, ces mesures, ce travail-là, c'est 500 pages, c'est 149 propositions dont la plupart ont été faites dans le consensus, pour après les voir se retrouver, affaiblis. Enfin, moi, je prends l'image très souvent. En fait, ils peuvent se dire que tout est là. En fait, c'est des mesures, ils ont tout pris. Mais ils ont tout pris, il n'en reste que le squelette. Moi, je ne reconnais pas la force à laquelle on avait mis. Je prends un exemple. Tout à l'heure, on parlait de la régulation de la pub. En fait, le Conseil d'État nous dit « Non, mais ça va à l'encontre de la liberté d'entreprendre. » Je pense sur se déplacer, le malus dont parlait Valérie Masson-Delmotte, c'était le fait de taxer de 25% le prix d'un véhicule s'il dépassait 1400 kilos. 1400 kilos, c'est 33% du marché. Le gouvernement a déplacé le curseur, l'a mis à 1800 kilos, qui représentait plus que 3% du marché des véhicules. Et donc, en fait, ça a été ça pour nombreuses mesures.
Ouais, on voit bien, hein, c'est ce que le monde appelle les mesures partiellement reprises.
Voilà, c'est exactement ça.
Ce qui nous permet de dire, voilà, la plupart des mesures ont été reprises. Alors, je vais poser la question très cash, parce que maintenant, il me semble que c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on peut encore compter sur les gouvernements nationaux, et notamment sur le gouvernement français, pour entreprendre une action climatique résolue? Est-ce que ça vaut encore le temps, l'énergie d'aller discuter avec eux? Je vais vous poser la question ensuite, d'essayer de les convaincre, d'essayer de faire pression, ou est-ce qu'il faut passer à d'autres modes d'action? Qu'est-ce que vous en pensez, William?
Moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu ménager la chèvre et le chou, entre guillemets, entre ce qu'on doit faire pour le climat et les intérêts économiques. Et à partir du moment où vous n'écoutez que les intérêts économiques, vous prenez les décisions dans le sens de l'intérêt économique. Et ça, je pense qu'il y a cette question-là, ils se cachent derrière leurs petits doigts, en fait. Sur la rénovation thermique des bâtiments, c'est chiffré, on sait ce que ça coûte, on sait ce qu'il y a à faire. C'est une des recommandations de la Convention citoyenne, un chantier à faire en 20 ans qui crée de l'emploi, etc. etc. Et en fait, on recule devant cet obstacle en se disant on n'y arrivera jamais parce qu'on n'arrive pas à poser le crayon sur le sujet. Et de se dire aussi, les gens n'arriveront pas à comprendre. Il y a un fait qu'il faut savoir. Une rénovation thermique globale de votre logement, c'est 40 000 euros. Voilà. Il y a des ménages qu'on va accompagner, qu'on va aider, parce que c'est une question de justice sociale. Mais il y a d'autres ménages qui vont se dire, ah ben, dans un truc invisible, je vais devoir mettre 40 000 euros. Sauf que nous, on sait, avec cette formation, que les 40 000 euros, ils seraient amortis dans plusieurs années avec les économies d'énergie. Et cette connaissance-là, tant qu'on n'est pas tous égaux, quand on n'a pas tous reçu une claque climatique, on va dire, des experts du GIEC, en vrai, on n'y arrivera pas, en fait, à ce... Les gouvernements vont dire, les Français ne vont pas comprendre pourquoi on fait ça. Alors, je pense qu'il y a une urgence à se mettre autour de la table et être égaux vis-à-vis de l'information, ne pas savoir que uniquement les forêts brûlent, les banquises se font.
Alors, mais attendez, comprendre... se mettre autour de la table avec qui? Qui autour de la table?
Il y a un problème de démocratie en France, en fait. C'est la première fois où on mettait les citoyens. On va dire que c'est une expérience intéressante sur le papier. Ça aurait été intéressant jusqu'à...
Bon, alors après, si je vous ai bien écouté, c'est décevant. C'est très décevant.
Ah, mais c'est une déception. Et ça met profondément en colère, une colère saine que maintenant j'ai transformée en voulant faire les choses à mon échelle, en gagnant en échelle. Je suis conseiller régional des Pays de la Loire maintenant, donc je suis entré en politique juste après, puisque j'ai assisté à ce qu'était l'inaction politique.
Vous avez été élu sous quelle étiquette ?
Écologiste.
ELV.
Je suis pas dans un monde de parti, je reste société civile. Je fais partie d'un groupe que je salue d'ailleurs, de 12 élus, premier groupe d'opposition à la région. Voilà, sur ces questions climatiques, on est force de proposition. On est force de proposition parce qu'on est tous égaux là, dans ce groupe. On a la connaissance de ce qui arrive.
D'accord. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que ça vaut encore le coup de discuter avec les gouvernements? Franchement.
En fait, on voit bien que, par exemple, nous, ici, on a un ensemble de leviers d'action à actionner. Il y en a un qui est au niveau européen. Donc là, il y a une révision à la hausse avec des objectifs clairs. Hein. Par exemple, l'arrêt de vente de véhicules thermiques qui ont été actés au niveau européen. Alors, ça va impliquer un doublement
de l'action à mener en France. Là, vous me parlez de l'Europe.
Vous me parlez de l'Europe. Non, mais je vais le décliner.
Tout à l'heure, vous m'avez parlé des élus locaux. Mais entre les deux, il y a un truc qui s'appelle les États et le gouvernement français.
Il y a tous les échelons d'action. Donc le niveau européen, les accords commerciaux qui sont importants, par exemple, pour la déforestation importée à laquelle on contribue. Il y a l'échelon national, bien sûr, le cap réglementaire, les lois, la fiscalité, l'argent qu'on met pour maintenir le statu quo, ou l'argent qu'on investit pour la transition.
Vous me faites un descriptif, Valérie Masson-Delmotte. C'est parce que je vous demande, si vous, les scientifiques du GIEC, à vos yeux, à vous, est-ce que ça vaut le coup d'aller tenter de convaincre des ministres qui vont rester 2 ans, qui vont changer, qui sont...
La réponse est oui. La réponse est oui parce qu'on est encore devant une absence de ce qu'on appelle la littératie climatique, c'est-à-dire comprendre les causes, comprendre les implications et avoir une connaissance des leviers d'action aussi bien pour l'adaptation à un climat qui change que pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Littératie, comme apprendre à lire, à écrire, à compter, mais version climat. Ce que décrivaient tout à fait William et d'autres, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir un cadre de base pour pouvoir se situer, pouvoir être un acteur de cette action.
Donc il y a encore besoin que vous, les scientifiques, alliez les informer.
Oui, donc par exemple, il y a une trentaine de scientifiques.
Ce qu'on voit d'ailleurs dans les images qui sont derrière vous, c'est cette action qui a été menée à l'arrivée du nouveau Parlement, où effectivement une trentaine de scientifiques sont venus rencontrer des
politiques. Être disponibles pour répondre aux questions des nouveaux députés.
Voilà. Bon, alors il se trouve que moi, j'y ai assisté, je fais un reportage pour Arrêt sur image. Oui. Bon, c'était une espèce de speed, je ne sais pas comment dire, de speed informing. ça durait 30 minutes, on ne peut pas dire que les députés aient appris énormément de choses.
Non, mais il y a l'enjeu de rentrer ça en dur dans la formation de toute la fonction publique. Oui. Il y a l'enjeu de rentrer ça très vite dans la formation des cabinets ministériels. Il y a cet enjeu aussi à le rentrer dans tout l'enseignement supérieur, ce n'est pas encore fait. Voilà, donc ces aspects-là, moi, il me semble légitime de les pousser. Je suis chercheuse. Je suis là pour produire des connaissances, mais aussi les partager, faire en sorte qu'elles rentrent dans la culture générale, dans la culture populaire également. C'est quelque chose qui est critique. Je vois monter en puissance une envie d'agir, également des élus locaux.
Chez qui ?
Les élus locaux, maires, qui sont en première ligne. C'est-à-dire, ils voient bien les enjeux des villes, inondations, vagues de chaleur. Ils voient bien les enjeux des territoires ruraux, sécheresse, par exemple.
Bien sûr, non, mais c'était le sens de ma question. Les maires voient. Enfin, vous me direz, nous aussi, aujourd'hui, sur ce plateau, on voit très bien, puisqu'on crève de chaud. Donc, tout le monde voit.
Ils le voient de deux manières. C'est-à-dire, la première manière, qui sont les impacts et l'enjeu d'anticiper pour ne pas être à gérer crise après crise. Et la deuxième chose qu'ils voient, c'est les questions d'emploi, d'attractivité économique. Et donc, ce basculement, en fait, qui est en train de se faire, qui va s'accentuer vers une économie bas carbone, avec certains secteurs d'activité qui vont être amenés à s'arrêter, d'autres secteurs d'activité qui vont monter en puissance. Et donc, ils sont aussi en première ligne sur ces enjeux que j'appelle de transition juste, c'est-à-dire comment on fait en sorte aussi d'accompagner, de fournir les formations pour les personnes de secteurs amenés à se transformer. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc moi, j'ai envie de dire, vous me provoquez en fait avec un discours qui est un peu fataliste. C'est difficile, l'impuissance des politiques ou le manque de volonté politique. Dans ce contexte, ce qui compte...
Le rapport de force.
Voilà. Donc il y a un rapport de force entre ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change, pour leur bénéfice, on va dire, par confort, mais aussi par rapport à des valeurs, des habitudes. Et puis il y a un rapport de force qui évolue avec ceux qui ont une aspiration à porter des transformations profondes. Et on le voit avec les citoyens de la Convention, on le voit dans certains secteurs d'activité professionnelle, et on le voit aussi de manière très large, parmi les plus jeunes, c'est très frappant en fait, hein, qui ont une aspiration aussi dans leur parcours professionnel à ne pas se mettre au service en gros des pollueurs, mais à accompagner, à accélérer les transformations de société.
Alors là,
mais pour une partie d'entre eux.
Évidemment, on pense aux étudiants d'AgroParisTech. C'était il y a quelques semaines, on les écoute.
Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre.
Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières.
Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous, la scientifique, écoutez des gouvernements, reçue en tout cas par les gouvernements, vous leur dites oui, désertez, ou vous leur dites vous avez tort, restez, faites bouger de l'intérieur, vous leur dites quoi ?
Moi j'ai écouté ces discours, j'ai écouté aussi celui d'une diplômée d'HEC qui elle disait quel rouage voulez-vous être ? Un rouage qui maintient le statu quo ou un rouage qui permet de construire une société plus résiliente, plus juste ? Qui respectent la nature et l'environnement. Et ceux de Polytechnique qui disaient « choisissez vos armes ». Et c'est celui-là que je vais garder. Pour certains qui ont un malaise très profond à rentrer dans le fonctionnement, on va dire, d'entreprises qui ont des effets néfastes, il faut le dire, sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'environnement, ça ne leur conviendra pas. Et donc, dans ce cas-là, il reste à construire pour eux, leur projet, autre, alternatif. Je me dis en fait que ça peut être une chance.
Ça ne se pose pas seulement en termes de convenance individuelle. Ça
Je pense que ça peut être une chance.
Ça se pose en termes d'efficacité globale.
Oui, mais pour des territoires ruraux, par exemple, puisqu'ils ont des projets d'activité agricole, par exemple, dans des territoires ruraux, ça peut être une chance de voir arriver des gens qui ont une formation d'agronome, qui savent s'organiser, se structurer, et qui peuvent peut-être apporter une nouvelle vitalité à ces territoires ruraux. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui choisissent de rentrer dans des petites ou grandes entreprises, de les transformer de l'intérieur. Et donc, on a besoin, en fait, de trouver la manière de porter ces transformations à l'intérieur du système, à l'extérieur du système. C'est un peu ce qu'on entend comme réflexion.
Donc, c'est les deux, mon général.
C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Ouais. Et surtout, pour moi, ce qui est important, on l'a un petit peu esquissé, mais on est devant un enjeu vraiment de cohésion sociale. C'est-à-dire, d'une part, il y a ceux qui l'ont complètement intégré. Les plus jeunes, ils ont grandi avec ça, en apprenant à lire quasiment. Dans mon petit quotidien, moi je me souviens, mes filles, elles ont appris à lire avec les glaciers qui fondent, littéralement. Donc, il y en a qui l'ont vraiment intégré, comme quelque chose autour d'eux, qui façonne leur choix. Pour d'autres, en fait, c'est quelque chose qui reste encore très extérieur, imposé, parfois vu comme punitif. On l'entend autour de nous. Et donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu d'arriver à faire en sorte qu'on construise des projets de société, où chacun trouve une place, mais on soit des acteurs de transformation. Et ça, c'est, je pense, le défi majeur pour la vie démocratique et pour l'action pour le climat.
William Autain.
Oui, ce problème, ce qu'a compris ces étudiants, ce problème du grand réchauffement climatique, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est la génération qui commence à dire stop. On ne veut pas être acteur du grand déséquilibre dans lequel on est placé, on veut y arriver autrement. Et ça, je pense que ce cri d'appel, il faut savoir l'entendre et les générations d'au-dessus à savoir entendre. Impossible pour moi de discuter avec mes grands-parents. Il faut toujours aller chercher la baguette de pain avec sa voiture alors qu'il y a peut-être 300 mètres à faire. C'est compliqué. Ils ont compris, et Valérie l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont grandi avec ça. C'est-à-dire que nous, en tant que génération d'aînés, moi j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, et j'ai ce sentiment qu'il faut agir et ne pas baisser les bras. Et je pense que ce n'est pas baisser les bras, ils ont dit stop. C'est-à-dire que là, vous nous emmenez dans un mensonge. On sait que ça ne va pas aller au bout. On ne pourra pas aller au bout. On sait que là, ce qu'on vit actuellement, c'est la norme dans 30 ans. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est ce que les gens n'ont pas très bien compris. En luttant contre le réchauffement climatique, là, on essaie de limiter la casse. C'est-à-dire que là, c'est notre norme. C'est ce futur qu'on est en train d'ouvrir. C'est le début de ce qu'il y a à faire. Et maintenant, ce qu'on doit faire, on doit lutter de deux fronts, à la fois pour éviter que ça soit pire et à la fois pour encaisser les chocs qui nous arrivent petit à petit. Mais seulement, le gros problème, c'est que les chocs qui... on est là au niveau des chocs. On est à réagir. Enfin, je vois aujourd'hui dans les médias, sur la canicule, mettez-vous au frais, etc. Alors qu'il y a... il y a une paresse complète qui fait qu'on n'est pas préparé. Enfin, j'imagine un méga-feu en France, les pompiers seraient débordés parce qu'il n'y a pas de plan d'urgence là-dessus. Et c'est ce qui est un peu terrible. Et donc, cette génération dit stop, il faut savoir l'accompagner, l'écouter et transmettre et donner des solutions. C'est surtout ça. Et des solutions, il y en a. Et Valérie le sait, et les experts du GIEC le savent, et ils ne sont pas écoutés.
Juste un détail, je vous entends parler de méga-feu en France au conditionnel, mais ce qu'il y a en ce moment en France, par exemple en ce moment, à l'heure où nous parlons dans en Gironde, à côté de la dune du Pilat, ne peut pas déjà être qualifié de méga-feu ?
Non, d'un point de vue scientifique, non. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a des conditions météorologiques propices aux incendies, c'est-à-dire des conditions chaudes, sèches et venteuses, qui touchent, en fait, des saisons plus longues. Ça commence souvent en février en Corse, maintenant. Des régions nouvelles, y compris le Jura, il y a quelques années, le nord de la France, avec les feux de moisson, la semaine dernière. Des régions difficiles d'accès, en Sibérie ou ailleurs. Et donc, on est devant, en fait, une situation où l'aléa s'aggrave. On arrive à contenir par les mécanismes de réponse d'urgence, avec un coût croissant de sécurité civile. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit. À un moment donné, pour ça, pour d'autres aspects, il faut aussi non pas simplement essayer de mettre des pansements sur quelque chose qui ne fonctionne pas, mais prendre les choses à bras-le-corps. Vous parliez en fait de mouvement de désobéissance, celui qui s'exprimait par les discours des étudiants, ceux qui bloquent le Tour de France. Ils réclament
aujourd'hui le Tour de France.
Hier
Roland Garros, c'est des.
Qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils réclament d'agir.
C'est le mouvement de dernière rénovation.
Ils demandent d'agir pour rénover le logement, notamment pour les passoires thermiques. Je veux dire un mot là-dessus. C'est dans le rapport du Haut Conseil pour le climat. C'est au moins 4,8 millions de maisons, si c'est pas le double, selon les estimations disponibles. Donc, ce sont des gens dans des situations d'une immense précarité énergétique, confort d'hiver pas du tout assuré, crève de chaud l'été également. Parce que c'est mal isolé pour le froid et pour le chaud. C'est quelque chose qu'on ne prend pas à bras le corps, mais ce n'est pas simplement une politique climatique, c'est aussi une politique sociale. Au lieu de donner des chèques énergie, on rénove et ensuite on sort les gens de la précarité.
William voilà. en parlait. Hein.
Tout à fait. Et c'est un des aspects de la Convention citoyenne pour le climat qui n'a pas été pris à bras le corps dans le programme de loi climat et résilience. Et c'est pour ça que je voulais développer un tout petit peu ça, pour montrer cet enjeu de prendre les choses à la base, de manière intégrée et pas simplement de manière réactive, crise après crise.
Je vous écoute, vous êtes d'un calme incroyable. William Ocamp parlait tout à l'heure, il a prononcé le mot colère, il a dit que l'expérience de la Convention citoyenne l'avait mis en colère. Vous avez des collègues auteurs du GIEC qui sont régulièrement très en colère à la télévision. Je pense à François Jemaine qui a expliqué que, à la différence de ce que vous dites, que ça valait plus du tout le coup maintenant de parler avec les gouvernements, la politique, tout ça c'était menteur, pourri et compagnie. Et je me demande quel est votre rapport personnel à la colère. Je veux dire, vous n'en ressentez pas du tout ?
Si, je la ressens j'essaie d'en faire une détermination. J'essaie de la transformer en persévérance, en détermination. J'essaie de tisser des ponts. J'essaie de faire en sorte que les connaissances scientifiques, elles percolent, elles soient largement répandues, diffusées, qu'il y ait une appropriation dans l'ensemble de la société.
Mais vous pensez quand ils sauront, ils feront ? Vous pensez vraiment que quand les politiques sauront, ils feront ?
C'est pas simplement ça.
Et ils ne se soucieront plus de la prochaine élection et
Non, ils vont réagir par les rapports de force dans la société. Ils vont réagir sous l'action de l'attente des uns et des autres, sous ce que disent les pompiers et la sécurité civile sur les limites au système actuel. Ils vont réagir sur ce que disent les réassureurs, les assureurs, les actuaires par rapport aux limites des systèmes de mutualisation de risques. Ils vont réagir par rapport à des entreprises qui vont porter des solutions.
Vous parlez des assureurs.
Et ils vont réagir sous la pression des citoyens.
Vous me parlez des assureurs. On les entend, les assureurs, dans le débat. C'est drôle, parce que vous prononcez
rapports,
le mot assureur.
Il y a eu plusieurs rapports rendus d'organisations françaises d'assurance, de réassureurs, qui montrent qu'on aura un doublement des coûts, en fait, des dommages liés aux impacts de certains aléas climatiques. Tous n'ont pas été pris en compte. On est, par exemple, actuellement devant une situation de plus en plus difficile pour les particuliers qui ont des maisons individuelles sur des sols argileux, qui sont exclus du mécanisme catastrophe naturelle. Donc, des situations de plus en plus difficiles. Il faut que ces personnes qui sont concernées, pas simplement les plus jeunes, pas simplement des militants, mais l'ensemble des personnes qui font face aux conséquences d'un climat qui se réchauffe, fassent entendre leur voix, s'organisent également pour peser dans la décision publique, pour agir sur les causes, les rejets de gaz à effet de serre, accélérer la baisse, pour agir sur les conséquences, pour agir pour le climat sans détruire la biodiversité, c'est un point qui est important aussi, on n'en a pas parlé. Mais ce sont des enjeux qui présentent beaucoup d'intersections.
Intersections, c'est une façon gentille de le dire. Beaucoup de contradictions et beaucoup de conflits.
Oui.
Je veux dire, les impératifs énergétiques, les impératifs de la biodiversité et les impératifs du patrimoine. Attention, faut pas, attention, les villages classés, etc. Faut pas faire n'importe quoi. Vous dites interaction, c'est du langage Masson Delmotte, c'est-à-dire c'est très gentil. Mais la vérité, c'est qu'il y a du conflit féroce là-dessous.
Oui, on le voit pour l'eau. On le voit sur ce qui est tenté pour conserver des pratiques agricoles très gourmandes en eau au détriment des zones humides, qui ne sont pas forcément les meilleures solutions pour remplir les nappes. Donc la situation d'urgence, elle peut créer ce qu'on appelle une maladaptation, on le voit. Il faut arriver à avoir des grilles d'évaluation, arriver à mieux mesurer les impacts sur la biodiversité de ce qu'on met en place pour le climat, pour éviter en fait d'empirer une situation qui est déjà terrible, d'érosion de biodiversité et de réchauffement.
Vous me disiez hier au téléphone, je pense que c'était un peu pour rigoler, que vous auriez bien aimé que le plan de reconstruction de Notre-Dame prévoie des panneaux solaires.
Oui. En fait, je pense qu'on a besoin de symboles qui matérialisent qu'on est dans une transformation profonde. On a besoin de ça, y compris sur le patrimoine culturel. Je sais que dans certains cas, dans le nord de la France, sur des anciens sites miniers, il y a eu des efforts de ce type-là, c'est-à-dire mettre par des panneaux solaires, par exemple sur une église, c'est le patrimoine culturel d'un village, comme manifestation de la transformation qui est en cours. Et moi, je serais favorable à des symboles de ce type-là. Je suis aussi en fait extrêmement attachée au fait que l'État, les élus soient exemplaires, parce que vous parliez de conflits et de tensions. La confiance dans les institutions, la confiance dans les gouvernements, elle est extrêmement érodée, dans une situation très grave pour la vie publique française. Et arriver à porter ces transformations rapides de nos sociétés, de manière de se déplacer, de se nourrir, enfin tous les aspects qu'a abordé la Convention citoyenne pour le climat, je le redis, c'est vraiment pour moi un enjeu majeur de cohésion sociale. Et donc, agir sur des symboles, agir par l'exemplarité, ça fait partie des conditions clés, je pense, pour créer un tout petit peu de récit commun de ce vers quoi on avance ensemble.
Concrètement, on pourrait mettre des panneaux solaires sur le toit de Notre-Dame, vous avez
regardé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais par contre, moi, j'ai été appelée à l'aide par de nombreuses personnes qui souhaitent le faire sur leur logement et qui font face à des refus parce qu'il y a des classements et des décisions au titre de la protection du patrimoine culturel qui demandent en fait des intégrations très coûteuses. Voilà, et donc ça fait partie des freins par rapport à des leviers d'action qui permettent très rapidement en fait de renforcer notre capacité de production d'électricité.
William, au champ ?
Au camp.
Au camp. Oui. J'ai un trou.
Oui. La question du récit, elle me semble extrêmement importante. C'est ce qu'on a proposé tout à l'heure. On parlait de décroissance, c'est pas vraiment tout à fait le cas, mais nécessairement se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On en est à cet état-là, savoir comment éviter une émission de gaz à effet de serre. C'est la façon de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ci ou de ça ? Je prends un exemple, j'ai un pizzaïolo dans le coin qui n'est ouvert que le midi. Et je lui dis...
Ah, horreur, il frise juste au moment où il nous parlait.
Ils disent en fait...
Attendez, on ne vous a pas entendu. Alors, vous avez un pizzaïolo qui n'est ouvert que le midi, oui.
Oui, il n'est ouvert que le midi, il fait des pizzas à tomber par terre. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas ouvert le soir ? On pourra en profiter avec nos enfants et tout. Et en fait, il me dit, avec le chiffre que je fais à midi, je vis très bien. Le soir, j'ai envie aussi de profiter de mes enfants et donc je suis fermé le soir. Et c'est cet état d'esprit qui fait que, est-ce qu'on a besoin de plus ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, ce que j'ai, c'est déjà bien ? Et on est une génération qui a connu une abondance, entre guillemets, on pouvait manger ce qu'on veut, on peut regarder ce qu'on veut. Enfin, mais ça, comment l'expliquer que ce n'est plus possible, ça ? À part se dire, on y va ensemble, on essaie de trouver des solutions, on dit, on va y arriver. On ne baissera jamais les bras avec Valérie, on a cette conscience-là.
Chacun a sa manière. William Aucamp, merci. Une dernière question, Valérie. Vous allez rester au GIEC ? Vous allez continuer à travailler
pour le GIEC ? Non, mon mandat s'arrête.
Ah,
donc moi, j'ai été auteur de rapports. Là, j'ai été coprésidente d'un des groupes de travail. Donc j'ai supervisé 3 rapports spéciaux, 1 rapport complet, assuré la cohérence avec les autres. Et il est temps que je passe le relais.
Alors, personnellement, mais vous savez pourquoi je vous pose la question ? Oui. Parce qu'il y a des gens qui se demandent à quoi sert le GIEC. Et non seulement à quoi il sert, mais est-ce qu'il n'est pas contre-productif ? Les gens qui se posent la question, ce n'est pas des ennemis farouches de l'écologie. Mmh. C'est notamment Stéphane Foucard, le chroniqueur du Monde, qui s'est posé cette question dans un papier qui, moi, m'a beaucoup frappé et qui consistait à dire, le GIEC, ils sortent des rapports régulièrement, ça fait 3 minutes, ça fait 3 minutes dans les médias. Et au fond, est-ce que ce n'est pas un alibi des gouvernements pour faire croire que, oui, ils font des choses ?
GIEC ne fait que fournir un socle de connaissances scientifiques de manière rigoureuse et robuste.
J'entends bien.
Ce socle de connaissances, il est aussi utilisé dans l'enseignement, dans la formation. Il fait monter le niveau de compétences de beaucoup de gens. Après, la question, c'est l'action publique. Comment on l'évalue ? C'est d'ailleurs typiquement le rôle du Haut Conseil pour le climat, qui juge en fait le fait de tenir les objectifs. Et ça, je pense qu'il faut y arriver davantage au niveau international.
Il va plus loin, Foucard. Il se demande si le GIEC n'est pas contre-productif. En mettant une jolie vitrine sur l'inaction.
Mais à un moment donné, on a besoin aussi d'avoir un état des lieux des connaissances scientifiques le plus rigoureux possible, de sorte à ce que cela puisse être mobilisé pour éclairer l'action. Je vous donne un point, moi c'est ma partie, la physique du climat. Avoir une vision plus claire du rythme de montée du niveau de la mer et ses conséquences. Avoir une estimation plus précise, par exemple, des modifications d'événements extrêmes, de l'intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité. C'est quelque chose qui est critique pour savoir à quoi se préparer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'échelle d'un pays. Même au niveau européen, on aurait du mal en fait, à faire une évaluation qui soit suffisamment approfondie. Mobiliser des scientifiques du monde entier pour faire ça, le fournir, c'est critique. Et c'est d'autant plus critique pour les pays qui ne disposent pas de cette force de frappe de recherche. Pour certains pays, c'est une source clé d'information pour l'adaptation, pour l'évaluation de risques, la construction des stratégies. Et donc, il ne faut pas non plus oublier ce volet-là. La connaissance scientifique qui est un socle commun, robuste, rigoureux, c'est aussi quelque chose qui est important pour montrer les déficits d'action publique, mais aussi pour éclairer les choix. Et si on avait eu un équivalent du GIEC au début de la pandémie qui puisse digérer les publications, les balbutiements et constituer un socle un peu plus robuste, on aurait peut-être gagné du temps.
Merci. Merci de nous avoir suivis. Très bonnes vacances à vous. À partir de la semaine prochaine, nos émissions se mettent en mode été avec des cartes blanches qui ont été distribuées à tous les membres de notre équipe qui viendront tous, donc, semaine après semaine sur ce plateau, vous entretenir de leur petit dada. Voilà, et on se retrouve en mode année à la rentrée si on n'est pas carbonisé d'ici là. Allez, prenez soin de vous.